En Grande-Bretagne, il en faudra plus pour stopper l'inflation et mettre un terme à ce processus très désagréable de chômage et de banqueroute. Cela signifie que nous devons prendre des mesures qui, dans un premier temps, seront très douloureuses. Les choses pourraient ne pas tant s'aggraver si nous acceptions de prendre la responsabilité de faire ce qui doit être fait.
Mais comment comptez-vous trouver les moyens d'empêcher les gens de faire obstruction à des développements qu'ils n'apprécient pas? Parce que le peuple a quand même beaucoup de droits garantis dans la société britannique.
J'ai bien peur qu'il ne faille en passer par une diminution des pouvoirs du Parlement.
Les mots de Friedrich Hayek pour illustrer le sous-titre de votre livre, Le libéralisme autoritaire. Après une très remarquée théorie du drone où il montrait comment cette nouvelle arme a changé en profondeur la notion même de guerre, il revient aujourd'hui avec La société ingouvernable à la Fabrique Édition. Un anti-guide de management, un essai de philosophie politique où ce chercheur montre comment dans les années 70 aux États-Unis et en Grande-Bretagne s'est opéré par le haut la reprise en main d'un système de gestion qui commençait à se fissurer. En pleine crise de la gouvernabilité, face à la contestation, des arts nouveaux de gouverner ont été élaborés que Grégoire Chamaillou, notre invité, nous retrace par le menu. Bonjour Grégoire Chamaillou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je reprends le titre de votre essai, La société ingouvernable. Alors quand on entend ça, la première réaction c'est peut-être de penser tout de suite un peu anarchie, chaos, désordre, une société qui ne serait plus gouvernable. Pour les acteurs sociaux que vous ciblez dans cet essai, la classe dominante, une élite économique, c'est surtout la peur panique d'une remise en cause du statu quo qui les a fait réagir à l'époque.
Oui, ce livre étudie une crise, alors pas la crise économique, celle que on lit habituellement au choc pétrolier, une crise qui l'a précédée, ce qu'on a appelé une crise de gouvernabilité. Michel Foucault, à l'époque, confiait avoir le sentiment d'assister à une grande crise de gouvernement. Par là, il entendait quelque chose de beaucoup plus large que le simple Conseil des ministres. Il voulait dire que l'ensemble des procédés par lesquels on conduit les hommes était remis en question. Cette thèse, elle était partagée à gauche par la théorie critique, mais aussi par des néoconservateurs, dont Samuel Huntington, qui est le co-auteur en 1975 d'un texte qui a fait scandale à l'époque, publié par la Commission trilatérale, La crise de la démocratie, rapport sur la gouvernabilité des démocraties. L'idée, c'était exactement celle-là. Non seulement partout ça se rebiffait, dans les entreprises, sous les drapeaux, dans les prisons, dans les familles, mais c'était le compromis historique de l'après-guerre. L'État-providence keynésien, qui, alors même qu'il était censé être un instrument efficace de pacification, se mettait à devenir incendiaire, à mettre le feu aux poudres, parce qu'il garantissait le plein emploi, parce qu'il s'engageait à un haut niveau de protection sociale. C'était avec cela qu'il fallait en finir. Pour reprendre la main, j'étudie la formation d'une grande réaction, un contre-mouvement dont nous ne sommes pas encore sortis, au cours de laquelle se sont formés de nouveaux arts de gouverner, qu'il s'agit de resituer dans leur contexte, de leur restituer leurs intentionnalités.
Et alors justement, vous distinguez bien ces deux termes, à la fois cette idée de la crise de gouvernement, telle que l'a définie Michel Foucault, et cette crise de la gouvernabilité. Dans ce mot de gouvernabilité, il y a une propension à se laisser diriger. Ça vaut pour un navire, un paquebot, un hélicoptère, mais ça vaut aussi pour un peuple. Et l'ingouvernabilité, c'est son refus. Est-ce qu'une société 100% gouvernable, ça a jamais existé, Grégoire Chamaillou?
Sans doute non, mais ça fluctue selon les périodes. Or là, il faut bien prendre la mesure du sentiment qui anime les classes dominantes à l'époque. D'abord, une immense surprise. Cette révolte, on ne l'a pas vue venir. La société de consommation était censée avoir domestiqué les travailleurs. Et puis, à cette surprise, très vite, s'associe une grande peur, un immense désarroi. Je cite deux sociologues américains qui vont enquêter sur l'état d'esprit des businessmen à l'époque, et leur conclusion est la suivante: il n'existe pas de groupe dans la société américaine qui soit davantage convaincu que les managers américains d'assister au crépuscule du système capitaliste. Ce groupe, ce sont les marxistes américains. Ce qui est sûr, et c'est Huntington qui le dit dans son texte, c'est que on ne pourra compter sur aucune main invisible pour restaurer la viabilité du système démocratique. Il va falloir intervenir.
Et sur quel pilier reposait cette société avant que le système commence à prendre l'eau de toutes parts, pour comprendre? Parce qu'on évoquait cette société 100% gouvernable qui n'a peut-être jamais existé à part entière, mais une société gouvernable avec cette affaire de dosage peut-être qui fonctionnait jusqu'ici. Là, il y a un déséquilibre qui est en train de se faire et c'est là où le système commence à se fissurer. Quels étaient les piliers de la société d'avant, avant qu'elle commence à être contestée?
L'engagement au plein emploi, la croissance, des libertés accordées aux syndicats, mais l'analyse aussi bien des néoconservateurs que des néolibéraux à l'époque, c'est que face à l'insubordination généralisée qui agite la société américaine, celle que j'étudie principalement, l'État ne réagit pas par une sorte de paralysie, au contraire, il se met à réguler, à taxer, à intervenir. Hayek parle de crise de gouvernite aiguë. Du coup, la question c'est de savoir comment, ce sont les termes de Hayek, comment limiter la démocratie, comment détrôner la politique, parce que si cela continue dans ces tendances-là, alors, dit-on, on va dans le mur. Alors, comment faire? Il y a plusieurs options sur la table. La première, la plus terrible, c'est le Chili. Le Chili de Pinochet, 11 septembre 1973, coup d'État contre le gouvernement socialiste de Salvador Allende. Hayek se rend au Chili, rencontre le dictateur et donne une série d'interviews à la presse chilienne que je cite dans le livre et qui valent vraiment le détour. Ce que déclare Hayek, c'est, je cite, « Je préfère un dictateur libéral à un régime démocratique sans libéralisme. » Or, ces déclarations ne sont pas des dérapages, elles sont en parfaite cohérence avec des décennies de théorisation de sa part. Le leitmotiv de la pensée de Hayek depuis les années 40, depuis la route de la servitude, c'est que la démocratie est animée d'un mouvement qui tend vers, dit-il, le totalitarisme. Cette idée que, face à ce qu'il qualifie de démocratie illimitée, il est impératif de lui mettre des bornes. Eh bien, l'une des solutions, c'est la dictature néolibérale, ce qu'il appelle la dictature libérale de transition, face au déferlement démocratique qui menace de tout emporter, on se rallie en dernière extrémité à la solution dictatoriale.
On continue, pardon.
Mais c'est très clair aussi pour les néolibéraux à l'époque, c'est Milton Friedman qui le dit, Pinochet, c'est l'exception, pas la règle. Il faut les prendre au sérieux là-dessus. On ne peut pas exporter ce modèle partout. Et du coup, il y a une énigme. Comment faire pour limiter la démocratie de l'intérieur sans rompre trop ouvertement avec les formes de la démocratie représentative? Hayek confie que très longtemps, on n'a pas trouvé la solution. On n'a pas trouvé la solution à ce problème difficile. Mais lui, il l'a. Il l'a, ce sera la Constitution. Les gouvernements, leur marge de manœuvre, sont bornés par des textes constitutionnels, par des règles sur la formation des règles. L'idée néolibérale, c'est d'utiliser ces méta-règles pour constitutionnaliser l'économie. Et quel est le contenu de cette limitation constitutionnelle de la politique gouvernementale? Hayek n'en fait pas mystère, ce serait d'interdire toute mesure de redistribution égalitaire vers le bas, c'est cela le panneau, l'interdit, qui serait posé dans un système ainsi corseté au niveau des marges de manœuvre de la politique gouvernementale.
Grégoire Chamaillou, en philosophe des idées, vous racontez cette remobilisation intellectuelle et politique du camp conservateur face à cette remise en cause du système. Vous analysez les stratégies. Pour comprendre la tectonique des plaques qui se met en place à ce moment-là, ce mouvement parallèle qui sont venus fragiliser les fondements du capitalisme d'antan, de ce système qui tenait jusqu'ici, il faut peut-être réentrer dans cette contestation. À l'usine, dans l'entreprise, la contestation monte. Vous rapportez ce chiffre qui, vu de l'Hexagone, semble absolument phénoménal. Au cours de la seule année 1970 aux États-Unis, près de 2,5 millions de travailleurs se mettent en grève aux États-Unis. On va revenir en 72 à l'usine General Motors dans l'Ohio, où débute une grève avec un retentissement très particulier dont vous allez nous parler.
The negotiations go on in Detroit with little hope of averting a strike. At more than half a dozen General Motors plants in the United States and Canada, angry auto workers today jumped the gun and began striking early. Some of the early walkouts took place right in Detroit, and Bill Plant reports.
With the strike deadline set for midnight, there were some who would not wait. Wildcat walkouts against General Motors occurred in several cities, this one a Cadillac plant in Detroit. The men on the picket line reflected the militant mood of many in the union.
Cost of living, work conditions for money?
Whole day.
How long are you willing to stay out?
Hey, until we get it.
Until we get it.
Voilà, là, les journalistes vont voir les ouvriers qui sont en grève et leur demandent jusqu'à quand va durer ce mouvement. Et les ouvriers répondent jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Hein.
Oui, on l'a oublié, on a retenu de ces années 60 américaines les agitations sur les campus, les mouvements des droits civiques. En réalité, il y a une immense agitation ouvrière, des sabotages, des grèves sauvages, un refus des cadences, un refus des coups de pression des contremaîtres, en refus de la discipline. On a parlé de crise de la gouvernabilité disciplinaire, celle que Foucault étudie à l'époque sur un mode généalogique. Ce qui est intéressant, c'est la réaction du patronat américain. Comment faire pour restaurer la gouvernabilité dans les usines et dans les ateliers? La première solution, c'est le serrage de vis. Augmenter les cadences, automatiser encore plus la production. Mais à cela, les ouvriers répondent par des mobilisations encore plus vives, encore plus radicales. C'est l'exemple que je cite dans le livre de la grève sauvage de Lordstown, qu'on a qualifié à l'époque de Woodstock industriel. Autre possibilité, s'interroger de la part des réformateurs du management sur l'aliénation à l'usine. La Harvard Business Review titre en 72 sur cette notion empruntée au jeune Marx. Et c'est l'élaboration de nouvelles formes de management qui vont préférer l'autocontrôle, l'autodiscipline, l'engagement, la participation au contrôle externe. Et puis, il y a une troisième option. Je cite dans le livre une phrase d'un manager de Ford qui dit la chose suivante. Le problème, quel est-il? Finalement, les formes du travail disciplinaire aliénaient leurs parents à cette génération. Ils les supportaient en serrant les dents. Non, le problème, ce n'est pas que le travail est trop dur, c'est que, écrit-il, le niveau de tolérance à la frustration a baissé. Il faut rétablir ce niveau de tolérance à la frustration. Ce sera le déploiement de stratégies de restauration de l'insécurité sociale et économique.
Parce que vous le racontez, ce qui est particulier dans cette période, c'est qu'on est dans une période encore presque de plein emploi aux États-Unis et que du coup la peur du chômage est inopérationnelle. Donc il va falloir trouver d'autres méthodes pour contenir cette contestation. Et donc au lieu de répondre aux demandes, aux revendications des ouvriers, ça va être effectivement une accélération des cadences et ce que vous appelez une intensification du régime disciplinaire. La discipline, c'est la clé d'une société gouvernable, l'indiscipline, c'est son talon d'Achille.
Ça l'était dans cette société-là, mais il a fallu inventer de nouvelles formes de management et de gestion du travail, mais pas simplement des travailleurs. Une autre nouveauté à l'époque, c'est l'apparition de nouveaux mouvements sociaux qui se mettent à cibler les directions d'entreprise de l'extérieur, d'une autre position que d'en être les salariés. Et les managers sont totalement dépourvus. Enfin, gérer du conflit avec des travailleurs, on sait à peu près le faire. Mais faire face à des mouvements de boycott, premier mouvement de boycott internationaux que j'étudie, notamment face à Nestlé. Nestlé qui commercialise du substitut de lait maternel dans les pays du tiers-monde, qui est accusé par des nutritionnistes d'occasionner des morts de nourrissons parce que ces produits sont vendus dans des situations où la population ne sait pas lire les modes d'emploi, où l'accès à l'eau potable n'est pas assuré. Une campagne de boycott se met en place et quand on voit les réactions de la direction de Nestlé, ils sont totalement désemparés. Ils pensent à un moment recourir au service d'un psychanalyste pour penser les blessures de leur cadre et très vite, ils recourent à d'autres types de spécialistes. Ils embauchent un spécialiste de contre-insurrection, un militaire, qui s'appelle Raphaël Pagan, qui est chargé de mettre en place une cellule de crise pour briser le boycott. Ce qui leur explique, c'est que les activistes, à la différence de la direction, eux, savent qu'ils font de la politique, savent qu'ils font de la stratégie et qu'il faut que les firmes se mettent, elles aussi, à en faire. Ces gens-là ont lu Clausewitz et ont retenu du grand penseur de la guerre l'idée suivante, que la force, la puissance dans un conflit n'est pas seulement déterminée par les ressources matérielles, qu'elle l'est aussi par la force morale. Eh bien, c'est ça, la stratégie, attaquer la force morale des activistes. Ils ont peu de ressources, mais ils ont une des capacités à agréger des gens autour d'eux, une stratégie qui va consister à attaquer les blocs de crédibilité de l'adversaire. Et on trouve élaborée une typologie des opposants. Vous avez toujours, disent-ils, en face de vous, plusieurs groupes, des radicaux. Ceux-là, il faut les isoler, avec eux rien à faire. Vous avez aussi des réalistes. Ceux-là, il faut les coopter, leur offrir de la gloire et de l'argent. Vous avez aussi des idéalistes. Eux, ils sont cruciaux parce que des églises, des nutritionnistes, des scientifiques, ils apportent des blocs de crédibilité à la contestation. Eux, il faut employer, pour les retourner, des techniques psychologiques. Faire jouer une contradiction interne, essayer de leur montrer qu'alors même qu'ils croient défendre des groupes, certains groupes minorisés, en réalité, leur action aboutit à les mettre en porte-à-faux.
Et tout ça, ça marche ?
Tout ça, ça marche relativement. Le boycott a continué parce que les activistes ont déjoué l'une des tactiques principales, qui est le dialogue. Dans ces années-là, on tire les leçons des limites de ce qu'on a appelé les relations publiques, fondées par Edward Bernays, l'auteur du fameux Propaganda, qui est aussi le parrain d'une des premières publications sur le thème de la responsabilité sociale des entreprises aux États-Unis. Ce qu'on se dit quelques décennies plus tard, c'est que cette idée, selon laquelle on peut créer un consentement dans un public malléable de manière verticale, ça marche plus très bien. Le public a appris à se méfier, il faut recourir à d'autres techniques.
Voilà, il voulait contrôler l'opinion et pour ça, il avait trouvé aussi des acteurs intermédiaires, des experts, des médecins, des personnalités reconnues, d'autorité, à travers lesquelles relier aussi cette parole. Juste, Grégoire Chamaillot, à vous écouter, on a le sentiment qu'il y avait un grand cerveau derrière tout ça, qu'il y avait une sorte d'éminence grise, un cabinet noir, une alliance des élites, voire peut-être un complot même contre le peuple de ces élites. Est-ce que tout ça, s'est formalisé en un groupe?
Non, alors j'étudie, c'est une histoire stratégique. J'étudie comment se forment des intentions dans des conflits. Les classes dominantes, à l'évidence, pensent, et je donne ici les archives de cette pensée, elles pensent, mais elles ne pensent pas comme un seul homme. Ce qui est très important, c'est d'étudier comment, dans le désordre, on cherche à colmater les brèches chacun dans son secteur. C'est important de le traiter comme ça, parce que ça permet de faire apparaître des contradictions qui peuvent éventuellement donner des prises. C'est très flagrant sur, par exemple, la question de la définition de l'entreprise. Vous trouvez, à cette époque-là, d'un côté, des économistes néolibéraux qui bâtissent de nouvelles théories de la firme. Contre les théories antérieures, leur souci est de dépolitiser l'entreprise. L'entreprise, à la rigueur, ça n'existe même pas. C'est un geste philosophique extrêmement fort, déréaliser l'entreprise pour la dépolitiser. Et de notre côté, vous avez d'autres penseurs, comme ce Pagan en question, qui, eux, traitent de manière tout à fait contradictoire, en réalité, au plan de la théorie, l'entreprise, non pas comme une fiction juridique, mais comme une machine de guerre. Il faut penser les deux ensemble, dans leurs contradictions et leurs tensions.
Il y avait aussi, derrière tout cela, toute une littérature grise, des zones grises, et c'est cette littérature grise que vous avez épluchée, des mémos, des rapports, des entretiens. Évidemment, tout ça n'est pas publié en librairie. Vous êtes allé où? Dans les fonds des entreprises aux États-Unis, dans les bibliothèques, dans les universités, pour retrouver tous ces éléments d'information?
On peut y accéder assez facilement. Pour ce qui est de la stratégie contre-activiste, j'ai notamment étudié un document extrêmement intéressant qui est un texte dactylographié que rédige un activiste qui a participé au boycott et qui rencontre quelques années plus tard au Brésil l'un des maîtres d'œuvre de la stratégie anti-activiste et qui note les minutes de la conversation et qui permet d'avoir une image, une idée plus précise de ces stratégies en question.
Alors on évoquait des penseurs comme Huntington qui redoute, vous l'évoquiez, ce déferlement démocratique, Hayek qui fustigeait lui la démocratie sans limite, vous nous parliez de Pagan, on pourrait aussi évoquer Adolf Berl, le juriste, avec l'économiste Gardiner Mintz qui vont co-signer ensemble l'entreprise moderne et la propriété privée. C'est une période où les penseurs de cette reprise en main, volontairement, consciemment ou un peu malgré eux, n'étaient pas en tout cas en crise de concept, primat de la valeur actionnariale, social, management des parties prenantes, management des problèmes, communication éthique. Il y a tout un vocable, une nouvelle langue qui va apparaître aussi à ce moment-là et qu'on retrouve aujourd'hui. Je vous propose d'écouter à ce sujet le Canadien Alain Deneau.
Alors, plutôt que de parler de politique, de démocratie, de citoyenneté, d'engagement, de débat, de lutte, on parle de bonne gouvernance. Et là, on anesthésie tout le monde parce qu'on prive le commun du discours politique, du lexique politique qui a été le sien pendant des générations et des décennies et des siècles au profit d'une sorte de jargon managérial qui ne veut rien dire. De l'acceptabilité sociale, ça ne veut rien dire. La gouvernance, ça ne veut rien dire. Le développement durable, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on inonde les gens de termes, même la société civile, qui est un concept qui a été complètement évidé, là, de mots qui ne donnent pas de prise.
Le langage au service des puissances est une des idées phares du philosophe canadien Alain Deneau. Mais ce qu'il nous dit aussi, c'est quand on veut changer la réalité, on commence par changer les mots. Grégoire Chamaillot.
Oui, on pourrait donner une citation du philosophe Castoriadis qui disait « Le maître de la vérité trône au-dessus du maître de la violence. Il est crucial dans le conflit social et politique, avant même la maîtrise des moyens matériels de la répression, de définir le sens des mots. » C'est tout ce vocabulaire, ces théories managériales et économiques, elles sont aujourd'hui enseignées largement dans les écoles de commerce, dans les études des cursus d'économie, et elles sont présentées aux étudiants comme des vérités tombées du ciel, comme des théories neutres. Eh bien, le geste philosophique, il consiste à aller retrouver le moment de leur élaboration et restituer la part de conflit, de polémique. Ces théories-là ont été explicitement conçues par leurs auteurs comme des instruments de contre-attaque face à un capitalisme contesté. Je donnerai juste un exemple, mais Janssen et Meckling, qui sont deux économistes néolibéraux de premier plan, Janssen sera récipiendaire de l'équivalent du prix Nobel d'économie, se demandent dans les années 70 si l'entreprise capitaliste peut survivre. Leur réponse, c'est « on parierait pas là-dessus ». Au rythme où vont les choses, elle sera remplacée par quoi ? Par des entreprises publiques, nationalisées, ou par des entreprises passées sous autogestion ouvrière. Et ils ajoutent le problème crucial, c'est qu'il y a incompatibilité entre l'entreprise, le marché d'une part, et le système démocratique de l'autre. Ce que disait la gauche radicale à l'époque, à savoir qu'il n'y aurait pas de démocratie authentique sans dépassement du capitalisme, on la trouve, cette thèse-là, symétriquement. De l'autre côté, il n'y aura pas, à la rigueur, de survie possible de ce système sans remise en cause de la démocratie.
France Culture, il est 13h19 avec notre invité, le philosophe Grégoire Chamaillot, à l'occasion de la parution de son nouvel essai « La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire ». C'est à la Fabrique Édition.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Grégoire Chamaillot, vous l'évoquez, c'est la thèse phare aussi de cet essai, cette idée d'une autorité sapée par le bas et d'une reprise en main qui va se faire par le haut dans les années 70-80 aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Mais quand on dit par le haut, c'est pas par l'État, c'est par les partisans de ce système libéral que vous décriviez, ce monde des affaires qui défend alors ses intérêts. Et ses intérêts sont pas forcément ceux de l'État et du collectif, du bien public. Leur objectif, c'est relégitimer un capitalisme qui commence à être contesté et à se fissurer de toutes parts. Les représentants de l'État, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont laissé faire ? Est-ce que le pouvoir politique s'est laissé déposséder d'une partie de ses prérogatives par les acteurs économiques ?
Il y a des premières stratégies qui consistent effectivement à verrouiller par le haut la marge de manœuvre gouvernementale. Mais j'étudie une autre façon de faire refluer le déferlement démocratique qui inquiétait tant Huntington. Et c'est ça, c'est extrêmement important. C'est ce que un groupe de néolibéraux de l'université de St. Andrews, en Écosse, ont appelé la micropolitique de la privatisation. Ces gens-là n'ont pas visiblement eu vent ni de Foucault, ni de Deleuze, ni de Guattari, donc ils sont fermement persuadés, au début des années 80, d'avoir inventé ce terme, micropolitique. Micropolitique de la privatisation, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, cela implique une critique de leurs camarades néolibéraux en politique qui, d'après eux, commettent toute une série d'erreurs grossières. La première, c'est de vouloir y aller au forceps, vouloir par exemple dénationaliser en bloc un service public. Non, disent-ils, il faut être plus progressif, y aller pas à pas. Deuxième erreur, c'est une incohérence. Les néolibéraux en économie étudient des micro-mécanismes. L'idée de la microéconomie, c'est qu'on va étudier des choix d'acteurs rationnels dans des circonstances précises. Or, disent-ils, ces néolibéraux de Saint-Andrews, quand vous entrez en politique, vous oubliez vos propres préceptes. Vous voulez tailler à la serpe, vous arrivez avec des macro-slogans hors sol. Il faut au contraire s'intéresser, là aussi, aux micro-choix, cette fois-ci non plus pour les interpréter, mais pour les transformer. Et troisième erreur, vous mettez une trop grande foi dans la bataille des idées. Cette idée selon laquelle il suffirait de bourrer ou de contre-bourrer le crâne des gens pour que le reste suive. Non, disent-ils, il faut commencer par changer les pratiques, les conduites, et il faut s'inspirer en cela, disent-ils, de Lénine, de Che Guevara, que ces gens ont lu.
Bon, en fait, ça se résume presque en une phrase, et vous le faites très bien, Grégoire Chamaillou, sur cette idée théorisée par le groupe de Saint-Andrews, courant du néolibéralisme. C'est fini les choix de société, bienvenue dans la société du choix. Donc on va dissoudre en fait dans des minuscules questions des choix de société pour essayer de voilà diluer un peu cette demande. Il y a une autre technique, c'est celle des privatisations. Vous appelez ça la riposte, enfin vous, la riposte à une surcharge de la demande. Qu'est-ce qu'on espérait faire en privatisant massivement? Alors, on l'a vu en Grande-Bretagne, pardon, sous Thatcher notamment.
La privatisation, elle a bien sûr des enjeux de gros sous. Il s'agit d'une appropriation par dépossession, comme le dit David Harvey, mais elle a aussi d'autres fonctions. Il s'agit de déplacer, de faire dévier la demande sociale de l'État vers le secteur privé. Une des techniques pour le faire, c'est ce que ces gens-là appellent le micro-incrémentalisme. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si vous voulez en finir avec un service public, ne dénationalisez pas en bloc. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir le secteur à la concurrence. Ouvrir le secteur à la concurrence et laisser le choix, justement, laisser le choix aux agents individuels de préférer, par exemple, quoi? C'est l'exemple que donne Madsen Piri dans son manuel de privatisation, dans lequel, à la Sun Tzu, si vous voulez, on liste des stratagèmes, des manœuvres. L'exemple d'une Thatcher fraîchement élue en 1980 qui libéralise le transport interurbain par bus, prélude de la privatisation des chemins de fer britanniques. Voyez, la beauté du procédé, disent-ils, c'est que une fois que vous faites ça, une fois que vous faites sauter le verrou dans un secteur, alors ce seront les gens eux-mêmes, par leur micro-choix de marché, qui vont être les vecteurs, les agents du changement, sans que vous n'ayez plus à piloter le processus par en haut.
Pour les conservateurs, écrivez-vous, dans ces années 70-80, l'État keynésien et les mouvements sociaux sont les deux menaces qui pèsent sur la démocratie représentative libérale. Vous parlez donc autour de cette société ingouvernable, d'un libéralisme autoritaire, deux mots qu'on a un tout petit peu du mal à accoler ensemble. Un paradoxe que soulignait aussi le philosophe Michael Fossel.
Il y a un paradoxe, en effet, entre libéralisme, même néolibéralisme et sécuritaire, en ce sens que, bon, bah, le libéralisme en général, et le néolibéralisme aussi, c'est l'idée du laisser-faire. Bon, c'est l'idée selon laquelle il faut laisser les individus nouer les contacts, les relations, les contrats qu'ils entendent nouer entre eux dans le marché. Bon. Et puis, d'autre part, la montée en puissance de cette exigence, disons, d'ordre, de contrôle, de surveillance. Il y a un paradoxe, mais ça me semble être un paradoxe apparent, parce qu'en réalité, inévitablement, si vous déléguez à un ordre donné, mettons le marché, le soin de réguler les rapports entre les individus, eh bien, il y aura nécessairement, je dirais, une marge qui va se constituer, c'est-à-dire, bon, bah, le mauvais consommateur, le mauvais investisseur, le mauvais sujet, en quelque sorte. Bon. Et de ce point de vue-là, il faudra bien, et c'est ce qui reste aujourd'hui, on pourrait dire, en un sens, aux États, comme prérogative, il faut bien s'occuper, si je puis dire, gouverner ceux qui n'entrent pas, qui n'arrivent pas, les sujets irrationnels, ceux qui n'arrivent pas à se plier aux injonctions de l'homme économique. Et c'est là que se situe en réalité, à mon sens, le sécuritaire et que l'État devient libéral autoritaire. Parce que on analyse et on a une tendance à interpréter systématiquement les comportements déviants comme des comportements irrationnels.
Voilà la question du paradoxe soulignée par Michael Fossel. Vous êtes d'accord avec lui, j'imagine, à peu près ou...
Tout à fait, oui. Il a raison de critiquer la notion de démocratie illibérale qui fait l'impasse sur le fait que ces régimes sont certes illibéraux au plan politique, mais libéraux au plan économique. Il a raison de critiquer aussi la théorie de Farid Zakaria. Dans l'article fondateur de ce politiste, il y a une image qui résume bien sa pensée. Un homme à terre, allongé, et sur lui une urne. C'est une nouvelle théorie de la tyrannie démocratique. Or, je crois que face à cette théorie-là, il importe de faire des rappels historiques. Le néolibéralisme, disait Friedman, et c'est pas le moindre des paradoxes, ce n'est pas très vendeur. Quand il entre en politique, ce néolibéralisme-là, au début des années 80, il a besoin de politiques de soutien. Il ne peut pas triompher seul. C'est une alliance qui se noue à ce moment-là entre un néolibéralisme économique et un néoconservatisme au plan politique. Si vous regardez la politique de Thatcher, dès 78, elle adopte un discours xénophobe et Hayek vole à son soutien publiquement dans le Times pour défendre cette politique-là, ceci contre le mythe selon lequel les néolibéraux seraient des partisans cosmopolites de la liberté de circulation et de l'abolition des frontières. Et j'en finis là. Il y a une imposture aujourd'hui à laisser croire que la radicalisation des thèmes néoconservateurs associés au néolibéralisme vaudrait comme rupture politique face à son programme économique.
Tout ça, c'est derrière nous. C'était il y a un demi-siècle, Grégoire Chamaillou. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous voyez autour de nous des exemples de cette union en apparence contre nature entre le libéralisme économique et l'autoritarisme politique ?
Le libéralisme autoritaire, on peut le résumer par une formule. C'est un état fort pour une économie libre. Formule que l'on trouve aussi bien chez Rousteau, qui est le père fondateur de l'ordolibéralisme allemand, que chez Carl Schmitt, qui est une des sources de Hayek, des différentes versions, mais qui supposent toutes, à des degrés divers, deux choses. Premièrement, un versant autoritaire, une verticalisation du pouvoir, une autonomisation de la décision politique face aux revendications sociales. Et puis d'autre part, paradoxalement, une limitation du pouvoir d'État avec l'interdit de toucher à la sphère économique.
Voilà des arts nouveaux de gouverner qui ont fait école, Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Votre nouvel essai vient de paraître à la Fabrique Édition. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a programmé et préparé cette émission. À Henri Leblanc et Jean-Christophe Brianchon pour la Grande Table Culture, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées, à Jeanne Copé et à Jordan Joseph pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Alex Dang. Merci beaucoup à tous. Très bel après-midi sur France Culture.